bonjour à tous. Eh bien, c'est ça qu'on veut entendre ce matin aussi, la parole de Dieu, n'est-ce pas? Inspirée. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à ceux qui nous visitent aussi pour la première fois ou qui nous écoutent sur l'Internet. On a régulièrement des gens qui nous écoutent un peu partout. Nous poursuivons, on est en train de faire une série pour ceux qui se joignent seulement maintenant avec nous, là, et on est en train de poursuivre une série d'études sur une des lettres du Nouveau Testament, la lettre de Paul à Timothée, ce jeune Timothée qu'on a laissé sur place dans la ville d'Éphèse pour s'occuper d'une église. Il y avait plusieurs problèmes dans cette église et Paul a laissé Timothée pour s'occuper, prendre soin de cette église afin de mettre un peu d'ordre dans l'église à Éphèse. Et à travers cette lettre, on a vu que Paul abordait certains sujets. On a pu apprendre plusieurs choses à travers cette lettre. Notamment la semaine dernière, ce qu'on a vu, c'est que cette exhortation de prendre soin des gens dans le besoin, notamment les veuves, et comment prendre soin, et on voit dans les Écritures l'importance de prendre soin des orphelins, prendre soin des veuves, prendre soin des gens qui sont dans le besoin et démunis. Alors, c'est des principes qu'on a vus dans les lettres à Timothée. On a vu avant ça différents enseignements, des erreurs qui s'étaient glissées à travers cette église à Éphèse et que Timothée est appelé à corriger, à remettre sur le bon chemin. Et on a vu au chapitre 3 des enseignements où Paul nous montre comment se choisir des anciens et des diacres et des diaconesses, ces serviteurs qui sont dans l'Église et qui servent dans les ministères, notamment des anciens, une autre façon de parler de pasteurs, ces leaders spirituels qui s'occupent, qui prennent soin de l'Assemblée, qui enseignent les Écritures, qui prennent soin des gens. Alors, on a vu ça dans 1 Timothée, chapitre 3, les critères pour se choisir des anciens. La lettre, donc, s'adressait aux anciens sur leur caractère. Et parfois, tu vas voir à travers les Écritures des passages qui parlent aux anciens comment prendre soin de l'Église. Mais le passage que nous voulons regarder ce matin et où nous sommes rendus fait le contraire, ça parle à l'Église comment prendre soin des leaders spirituels, d'accord? Alors, on va tourner ensemble, si vous voulez bien, dans 1 Timothée chapitre 5. Et ce que nous allons voir, c'est l'apôtre Paul qui va donner 5 principes comment bien prendre soin des leaders spirituels. 1 Timothée chapitre 5. Verset 17 au verset 25. 1 Timothée 5, verset 17 à 25. Alors, vous êtes là avec moi? 1 Timothée 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur. Ah, moi, ça, c'est mon verset favori. Très bien. Alors que les anciens, je vais juste le répéter des fois si vous avez manqué, là, que les anciens qui dirigent bien soient jugés de quoi? Amen, amen, amen. D'un double honneur, d'une marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. En effet, l'Écriture dit, tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. N'accepte pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je t'en supplie devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ et devant les anges élus, suis ses instructions sans préjugés et ne fais rien par favoritisme. Ne pose les mains sur personne avec précipitation et ne l'associe pas au péché d'autrui. Et ne t'associe pas au péché d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. Cesse de boire que de l'eau. Prends un bon Bordeaux à cause de ton estomac et tes fréquents malaises. Les péchés de certains hommes sont évidents avant même qu'on les juge, mais chez d'autres, ils ne se découvrent que par la suite. De même, les belles œuvres sont évidentes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Prions. Tout d'abord, Seigneur notre Dieu, on aimerait te remercier pour ta famille, ta belle grande famille qui est l'Église, l'Église universelle, tous les croyants à travers le monde. Il y a des gens à travers le monde en ce moment qui est justement en train de regarder ta parole, qui cherchent à la suivre, à t'obéir avec foi et avec joie. Et ce matin, nous te demandons, Seigneur, pour cette famille d'Église qui est notre famille ici, locale à Gatineau, que tu puisses parler à nos cœurs et nous enseigner. Merci pour tous ces serviteurs que tu mets au sein de l'Église. On pense aux diaconesses, aux diacres. On pense aux anciens, pasteurs, cette belle équipe, Seigneur, ici, qui ont à cœur les gens de l'Assemblée. Merci pour tous les frères et sœurs qui travaillent ici dans l'Église. Je pense à tous ceux qui sont à la diffusion sur Internet, les caméras, l'audio, tous les moniteurs, monitrices au TE, les placeurs, les gens qui sont au stationnement, toutes ces dizaines de personnes qui préparent ces services de célébration chaque semaine, qui se dévouent, qui s'investissent dans la vie des autres personnes pour faire connaître ton nom davantage et pour ta gloire. Seigneur, c'est notre rêve, comme notre cher frère Éric le mentionnait ce matin, c'est cette vision à cette Église de pouvoir répandre le beau message de l'Évangile afin que d'autres découvrent Jésus et tombent en amour avec Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, nous te louons, nous bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est des principes, des instructions détaillées qu'on a dans notre passage sur la façon de prendre soin de ceux qui sont impliqués dans le leadership spirituel. On a lu au chapitre 3 avant dans notre série sur 1 Timothée, que vous pouvez aller écouter si vous voulez, sur Internet, sur notre page web, comment se choisir des leaders spirituels. Et maintenant ici, on voit comment prendre soin d'eux, comment prendre soin des leaders spirituels. Et moi, ce matin, je peux vous parler très librement. Je vais vous parler avec assurance, naturelle. Je vous parle là, librement de l'importance de prendre soin des leaders spirituels. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai des cheveux gris. Moi, ça fait 40 ans, presque 40 ans que je suis pasteur. Donc, j'ai plus d'années en arrière qu'en avant. Alors, je peux vous parler vraiment librement comme un grand-papa, là, puis... de ces passages-là, parce que je ne parle pas de moi ce matin, je vais parler des autres ouvriers, des autres pasteurs dans l'Église. Vous m'avez gâté, vous avez pris soin de moi, il n'y a pas de problème. Mais on veut continuer à se rappeler de prendre soin de nos anciens, de nos pasteurs, et on veut aussi prendre soin des pasteurs qui viendront dans les années après. On veut que notre Église... célèbre son 60e année, 80 ans, 100 ans, je ne pense pas être encore là, là, mais en tout cas, on veut continuer à répandre le message de l'Évangile ici. Amen. Alors, moi, je vais vous parler librement ce matin. Voici 5 principes pour bien prendre soin des leaders spirituels. Et ça commence avec le premier qui se trouve au verset 17 et 18. On prend soin des leaders spirituels en les traitant avec respect et soutien financier. Verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Alors, on parle ici de bien diriger, de dirige bien. C'est un mot qu'on retrouvait même dans la communauté juive pour ceux qui s'occupaient des synagogues. Alors, c'est prendre soin finalement de l'assemblée. Il est un berger. Il est un peu le papa de la famille chrétienne, si on veut. Il veut prendre soin des gens que le Seigneur place au sein de l'Église. Et on voit dans les Écritures que nous voulons et que nous avons besoin de tous nous occuper les uns avec les autres. La Bible parle que tous les enfants de Dieu sont des prêtres, d'accord? Mais Dieu va appointer certaines personnes pour s'occuper de son Église aussi. Le mot « juger d'un double honneur » veut simplement dire « d'honorer de deux manières ». Premièrement, avec respect, et deuxièmement, avec un soutien financier. Et Paul, maintenant, va citer deux passages pour soutenir son point, son argument. Deux passages, un qui vient de l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que regardez comment Paul va commencer. Il dit, « En effet, l'Écriture dit. » En d'autres mots, Paul est en train de reconnaître que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont inspirés de Dieu. Il appelle le Nouveau Testament les Écritures. Et ça, c'est un terme qui parle de la parole de Dieu. Alors, il donne deux points, ces deux arguments. Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Alors, on prend soin de nos leaders spirituels en les traitant avec respect et en les soutenant financièrement. C'est Don Carson qui disait qu'un pasteur mature va se contenter et ne voudra pas s'enrichir, servir l'Église pour s'enrichir. Et ça, c'est le pasteur mature qui sert le Seigneur, non dans le but de s'enrichir. En revanche, une Église mature est une Église qui est généreuse. Amen. Alors, c'est une marque de générosité, un signe de générosité, de consécration au Seigneur. Alors, ce matin, on vous invite à donner généreusement et on vous lance ce petit défi ce matin, cette campagne de levée de fonds, ce don spécial. On vous invite parce qu'à la réunion annuelle de l'an passé, on a voté pour ajuster le salaire de nos ouvriers, de nos pasteurs. On ne parle pas de moi ici, mon salaire ne changera pas, mais on parle ici des autres pasteurs ici dans l'Assemblée. Ils sont diplômés maintenant, on a voté, mais on a besoin plus d'offrandes et de dons. On accuse un certain record, on a besoin vraiment de se retrousser les manches. On a voté pour ça, c'est ce qu'on veut. Alors, on vous invite ensemble, si tous on se met ensemble pour donner un peu plus, on va être capable d'y arriver. Amen. Alors, c'est vraiment le défi qu'on se lance ce matin. Alors, on prend soin des leaders spirituels en les traitant avec respect et en les soutenant financièrement. Et deuxièmement, en leur donnant le bénéfice du doute. Regardez ce que Paul va dire ici. « N'accepte pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. » Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais lorsque quelqu'un vient m'apporter une critique de quelqu'un d'autre, j'ai tendance à tout de suite le croire. Mais ici, le Seigneur est en train de nous dire, « Non, arrête-toi pas là, va plus loin, fais une certaine investigation. » En d'autres mots, arrête-toi pas là, va plus loin. Accepte pas cette tendance naturelle d'accepter les critiques comme si c'était vrai. Renverse la tendance naturelle qu'on a. Soupçonne la critique qu'on nous donne jusqu'à preuve du contraire. D'ailleurs, tout le système de la société, la justice est basé là-dessus. Il faut considérer une personne innocente jusqu'à preuve du contraire. On dit la même chose ici. D'ailleurs, on le voit souvent dans l'Ancien Testament, Deutéronome 17, Deutéronome 19, d'avoir deux, trois témoins, etc., pour vraiment établir des faits, pour que ce soit juste, que ce soit valide. Et c'est vrai pour tout le monde, ce n'est pas juste pour les leaders spirituels. Comment traiter les leaders spirituels? Bien, si quelqu'un porte une accusation contre un leader spirituel, on le traite comme s'il était un innocent. Ça fait drôle, hein? Comme s'il était innocent jusqu'à preuve du contraire. En d'autres mots, on lui donne le bénéfice du doute. On ne saute pas aux conclusions. On ne prend rien pour acquis, comme on le fait si souvent avec les gens. Alors, c'est un principe qui s'étend sur tout le monde. Et la raison, c'est parce que des rumeurs à l'endroit des anciens, des pasteurs, etc., peuvent faire beaucoup de dommages. Ça fait dommage à l'Église, pas juste aux leaders, mais aussi à l'Église, mais aussi même à Jésus-Christ, au Seigneur lui-même. Et c'est très difficile de rebâtir après. Maintenant, ça ne veut pas dire que si jamais tu entends un ancien enseigner une erreur des Écritures, une fausse doctrine, tu vas le voir tout de suite. Tu veux corriger ça, tu veux lui poser des questions, tu veux valider, savoir si tu as bien compris, si c'est bien ce qu'il dit. Tu vas le voir. Ou si tu as des doutes, des soupçons, tu vas le voir lui seul en premier. Tu vas lui demander, tu veux valider. Mais si ça s'avère que c'est vrai, là, tu vas plus loin. Là, tu bouges. Et d'ailleurs, c'est le prochain point pour lui, pour le bien de la communauté de l'Église et pour le leader spirituel. Il a besoin de se faire reprendre si c'est le cas. Alors, ça, c'est le troisième. On prend soin des leaders spirituels. Troisièmement, en ne camouflant pas le mal. Verset 20 dit, « Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi prouvent la crainte. Et je t'en supplie devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, devant les anges élus, suis ses instructions sans préjugés et fais pas de favoritisme. » Alors, on ne veut pas camoufler le mal. Pensons à toutes les années de personnes qui ont été abusées, des enfants qui ont été abusés par des leaders spirituels et ça a été camouflé, ça a été caché. Quelle horreur, n'est-ce pas? Alors, on ne veut pas faire ça. On ne veut pas camoufler le mal. Et c'est ce que Dieu, en passant, en fait, dans les Écritures de l'Ancien Testament. Avez-vous remarqué qu'il n'a pas camouflé le mal que ses leaders spirituels ont fait? On pense à Abraham qui a dit des mensonges, qui a passé sa femme, que c'était sa sœur. On pense à David qui a fait un meurtre suite après avoir couché avec la femme d'un autre. Dieu le publie dans les Écritures, ce que ces gars-là ont fait. C'est publié, c'est public. parce que c'est sérieux. Voici une autre façon de bien traiter les dons spirituels, c'est de bien les choisir. Quatrièmement, verset 22, « Ne pose pas les mains sur personne avec précipitation et ne t'associe pas au péché d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. » Alors, on a déjà couvert ça au chapitre 3, quand on a passé à travers le chapitre 3. On n'ira pas plus loin là-dessus. Une dernière façon de bien traiter les dons spirituels, c'est en reconnaissant qu'ils sont des êtres humains. Okay? Les anciens, les pasteurs, ça leur arrive aussi de se lever un matin et ils sont de mauvaise humeur. Ils sont humains aussi. Ben oui, ils ont des bonnes journées, ils ont des moins bonnes journées. Ils sont humains. Timothée lui-même, tu regardes Timothée, c'est un gars qui était fragile, qui était souvent malade. Paul parle de qui est fréquemment malade. Alors, il était gêné, il était timide, il avait tendance à se retirer quand ça devenait chaud, puis c'était dur. Mais Dieu se sert des êtres humains comme ça. Dieu se sert des êtres humains qui sont faibles pour faire des choses extraordinaires à travers des gens ordinaires. Imaginez chercher un pasteur pour ton église, pour la santé. On cherche un pasteur, tu mets une offre d'emploi sur l'Internet. Cherchons pasteur pour notre église de santé. Qualification requise, qu'il soit jeune, manque d'expérience, qu'il soit gêné, qu'il soit souvent malade. Tu fais ça? C'est ça, c'est Timothée, ça. C'est Timothée. Et Dieu a choisi ce Timothée pour faire des grandes choses à travers lui. Amen. Dieu se sert des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. On pense à Spurgeon, grand prédicateur, mais il luttait avec la dépression constamment. Il souffrait constamment. Spurgeon, pourtant, Dieu s'en est servi pour faire des choses extraordinaires. Il a conduit des milliers de personnes au Seigneur au 19e siècle. Il a déjà prêché sans micro, sans ampli, c'est au 19e siècle, devant 23 000 personnes. C'était phénoménal. Des milliers de personnes sont venues au Seigneur. Mais il luttait avec la dépression. Il souffrait constamment, malade souvent. Mais Dieu se plaît à prendre des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Et c'est ça qu'il veut faire avec toi. Fais des belles choses à travers toi. Des fois, tu te dis, ah, pas moi, moi, je manque d'expérience. Parfait, t'es le candidat parfait. Signe. C'est toi que le Seigneur veut. Amen. Eh bien, on veut demander à Sylvain de venir donner un témoignage ici ce matin. Sylvain Plouf, sur... Bien, je vais laisser communiquer. As-tu un micro, toi, là? Tiens. Je vais l'ouvrir.
Tiens. Merci, Normand.
Correct?
Je crois que oui.
Oui, c'est bon.
Effectivement. Alors, bonjour à tous. Je me représente. Mon nom, c'est Sylvain Plouf. Je suis un des bergers assis à la table du conseil. On est une dizaine de frères qui ont comme mandat de promouvoir et aussi d'encourager, d'exhorter les gens à propager l'Évangile autour de nous. L'Évangile, n'est-ce pas le plus grand trésor qu'on a dans nos vies? Le fait que Christ est mort à la croix pour nous et ressuscité et qu'aujourd'hui, il nous donne accès auprès du Père sous plusieurs formes. Et dans ma vie, ce que je voulais vous partager ce matin, ce que je voulais vous témoigner, c'est comment Christ a été fidèle pour ma croissance, comment Christ a été fidèle dans plusieurs domaines de ma vie, mais aussi dans les finances. Et je voulais vous partager ça pour vous encourager, vous exhorter de faire confiance à Dieu. Puis cette confiance à Dieu-là, qu'on développe avec le temps, qui est pas à pas, qui est un cheminement avec Dieu. Moi, je l'ai commencé avec M. Dr. Alan Johnston, qui était pasteur ici à l'époque, un des hommes qui était au conseil. Et il m'avait dit, tout nouveau chrétien, « Sylvain, ça n'a pas trop d'importance le montant que tu vas donner, mais sois fidèle. » Alors, si tu, dans ton cœur, tu résolus devant Dieu de donner 5 $ par semaine, bien, maintiens ton 5 $. Si tu résous devant Dieu de donner 10 $, maintiens ton 10 $. Mais sois fidèle, fidèle constant. On voit la fidélité de Dieu dans plusieurs endroits dans les Écritures. Puis Dieu nous appelle aussi ses fidèles. Alors, on est exhorté, encouragé, chacun de nous, à prendre part à son œuvre. Je crois que c'est un privilège qu'on a de prendre part à son œuvre. Alors, je voulais juste prendre quelques minutes ce matin pour vous encourager pour ça. Ensuite de ça, Dieu a mis sur mon chemin un François Lalonde, qui est décédé aujourd'hui, mais qui enseignait déjà le cours des finances, qui était le cours Crown. Et j'ai été très surpris de ce que Dieu pensait de mes finances. Parce que quand je suis arrivé et j'ai ouvert les Écritures, François nous a démontré qu'il y avait plus de 2000 versets qui parlait des finances, qui parlait d'argent. Alors, Dieu, il n'est pas indifférent de l'argent avec lequel il nous fait confiance. On apprend à travers le Cool Crown que nous, on n'est que des administrateurs. Dieu pourvoit et nous, on vient en retour puis on lui donne une partie de ce qui lui appartient déjà. Puis, on est appelé à gérer ça, puis à faire en sorte que Dieu est élevé, Dieu est glorifié, Dieu est répandu à travers nos communautés. Et je voulais vous partager ça ce matin parce que je trouvais que c'était encourageant, parce que Dieu était fidèle dans notre famille. Il y a eu des temps où est-ce que nos deux garçons ils voulaient aller à l'école biblique et on se demandait comment est-ce qu'on était pour faire pour payer ces gros montants-là. Et je vous dis aujourd'hui que ça fait quand même 10-12 ans. Oh oui, facilement 12 ans, peut-être même 14 ans que ça s'est arrivé. Puis si vous me demandiez aujourd'hui comment c'était fait pour payer ça, je ne le sais pas. Pourquoi? Parce que Dieu était fidèle. C'était des montants qui ont été considérables dans nos vies auxquels on a eu à faire face, mais on n'a pas hésité d'investir dans l'avancement de l'œuvre de Dieu dans le cœur de nos enfants. Puis on n'hésite pas non plus aujourd'hui à investir dans le cœur de chacun d'entre nous. On croit vraiment que l'Évangile, ça vaut la peine d'investir. En fait, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire. C'est ce qui rapporte à peu près le plus d'intérêt. C'est investir dans l'œuvre de Dieu. Alors, je voulais tout simplement vous partager ça ce matin, sans nécessairement mettre de pression, mais vous dire que Dieu était fidèle envers nous. La famille plus officielle Église de Gatineau, Yves Slève serait un des premiers à se lever pour dire « Dieu est fidèle ». Et il a pris soin de nous. Alors, je veux terminer, si tu permets, normalement, par un mot de prière, juste pour demander au Seigneur de tous nous ouvrir le cœur afin d'exposer nos finances, d'exposer l'argent qui lui appartient déjà, mais de lui exposer comment on l'administre, puis pas être gêné devant Dieu, de prier pour de lui demander son aide pour nous guider à travers la façon qu'on dépense et qu'on distribue nos argent. Seigneur Jésus, on veut se courber devant toi, on vient en toute humilité, sachant que tu es celui qui pourvoit, sachant que tu es celui qui nous fait vivre dans un pays d'abondance où coule le lait et le miel. Seigneur, on élève ton nom, on veut élever ton nom ce matin en assemblée et on veut t'exposer nos finances, on veut t'exposer nos désirs de voir ton œuvre avancer puis de croître dans les cœurs. Puis pour ça, Seigneur, tu sais qu'on a besoin d'être sage et de savoir discerner avec nos finances. Donne-nous ta sagesse, ton amour, ta grâce pour agir, afin que ton nom soit glorifié, élevé dans nos vies et que ça déborde sur ceux autour de nous. Pour ta gloire, à toi, Seigneur. Amen.